Radio Okapi.
Plus de 700 ménages des déplacés de Bunagana refoulés en Ouganda sont retournés dans le retour au Nord Kivu. Les sources administratives locales parlent de violation des droits humains de ces déplacés par les forces de sécurité ougandaises. Ils plaident pour l'implication des autorités congolaises dans le dossier. Bazouélé, au moins 60% d'élèves ne pourront aller à l'école le 5 septembre. Motif, pas assez de place dans beaucoup d'établissements du cycle primaire dans le territoire d'Ango. L'alerte est du député provincial élu d'Ango, Gambolipaï Antoine, demande au gouvernement de créer des places, des classes parallèles. Et puis, province de la Tchopo, le comité provincial de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique a clôturé en début de week-end dernier à Kisangani une assemblée générale, 3 ans après l'installation de cette structure. Pour en parler, nous recevons Jean-Marie Moussambaï, secrétaire exécutif provincial de l'unique Tchopo. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Plus de 700 ménages des déplacés de la zone de Bunagana refoulés en Ouganda sont retournés dans le territoire de Rutshuru. Selon les sources administratives locales, les uns sont déjà au chef-lieu du territoire alors que les autres sont encore localisés dans le groupement de Busanza. Ces sources parlent de violation des droits humains de ces déplacés par les forces de sécurité ougandaises et plaident pour l'implication des autorités congolaises dans le dossier. Des détails dans ce reportage.
Environ 400 ménages de ces déplacés sont arrivés hier vendredi à Rutshuru Centre, alors que près de 360 autres ménages étaient encore à Busanza au nord de Bunagana, indiquent les sources coutumières et les associations locales dans le Rutshuru. Pour ces sources, refoulés de force de Kisoro en Ouganda, ces déplacés de la guerre opposant les FRDC au M23 dans la zone de Bunagana passent par le petit poste frontalier de Kitagoma pour déboucher dans le groupement de Busanza, en évitant de passer par le territoire de Djomba occupé par les rebelles. Rappelons que c'est jeudi dernier vers 8h locale que cette opération de refoulement a commencé en exécution d'une décision des autorités congolaises. Les forces de l'ordre ougandaises obligent, fouet à la main, tous les déplacés congolais vivant dans des maisons de location à leurs propres frais ou dans des sites de fortune à Kisoro, soit d'embarquer dans des bus pour être délocalisés vers le camp des réfugiés de Nyakabande à 17 km de la frontière, soit de rentrer dans la zone encore occupée par les rebelles. Le chef de groupement de Djomba, Jackson Gachuki, plaide pour l'implication du gouvernement congolais pour protéger les droits de ces déplacés de guerre dans ce pays voisin, l'Ouganda.
Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère des Actions humanitaires, vient d'assister les sinistrés des affrontements communautaires entre les peuples Teke et Aka à Kwamout dans la province de Maïndombe. Cette assistance est composée d'un lot important des vivres et non-vivres. C'est la gouverneure de Maïndombe qui a cheminé depuis hier ce don à Kwamout, où elle ira de village en village pour procéder à la distribution. Irène Mboma nous en dit plus.
Ce lot important de vivres et non-vivres donc du gouvernement central destiné aux sinistrés des affrontements entre les peuples Teke et Yaka à Kwamout est essentiellement constitué de sacs de riz, de maïs, de haricots, du sucre, des bidons d'huile et des tôles pour la reconstruction des habitations qui ont été détruites ou incendiées. Rita Bola, gouverneure de la province du Maïndombe, est descendue personnellement dans ce territoire pour la distribution de cette assistance.
Il s'agit bien de la promesse du gouvernement central, le don venant du président de la République, bien sûr. Ce don est arrivé et je suis personnellement revenu afin de distribuer ces dons pour que ces dons arrivent vraiment dans les villages. On servira tout le monde. Il y a eu quand même deux grosses baleinières.
Il faut signaler que le gouvernement provincial du Maïndombe a aussi assisté ces sinistrés en apportant un lot important de tôles. Rita Bola, qui le dit, fait savoir que pour le moment, un calme précaire est observé dans l'ensemble du territoire, sauf les quelques cas isolés d'incendie des maisons. D'après l'autorité provinciale, les populations déplacées sont déjà en train de retourner dans leur village, car dans certains campements où elle avait laissé plus de 2000 déplacés lors de son passage avec le VPM Daniel Asselo, à ce jour, il n'en reste qu'une trentaine. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, plus de 1300 familles des déplacés de guerre dans la zone de santé de Tchoudja et Nyarada, dans le territoire de Djougou, ont reçu jeudi une assistance en non-vivre de la part de l'ONG Programme pour la promotion des soins de santé primaires. Selon le chargé de cette organisation, au moins 350 portes des latrines et des puits d'eau ont par ailleurs été construites pour permettre à cette couche de la population de se mettre à l'abri des maladies. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Cette assistance en non-vivre était composée de casseroles, de gobelets, nattes, couvertures et de moustiquaires. Les bénéficiaires sont des familles de déplacés de Tchoudja et Nyarada qui vivaient dans des conditions difficiles dépourvues de tout. Selon le chargé de communication du programme pour la promotion des soins de santé primaire qui a procédé à la distribution de ces kits, c'est pour permettre à la population d'accéder aux meilleures conditions hygiéniques et se protéger ainsi contre des maladies. À la même occasion, 36 portes de latrines ont été remises aux écoles et 24 aux installations sanitaires à Bambou, Mangala et Jiba. Pour les bénéficiaires, cet appui tombe à point nommé, surtout en cette période de pandémie du Covid-19. L'un d'eux, Pascal Ngabo Machu, directeur de l'EP de Bambou.
Au niveau de notre école, un point qui nous préoccupait, c'était le problème des latrines. On a creusé partout, c'est une vieille école. L'espace qui était resté pour le creusage des latrines, c'était fini. Mais alors avec ces latrines-là, vidageables, que PPSSP vient de construire chez nous, en tout cas c'est très bien. Le fonds humanitaire a juste répondu à notre préoccupation.
Pour le programme pour la promotion des soins de santé primaire, cette assistance n'est pas encore satisfaisante au regard des nombreux besoins de cette couche des vulnérables. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Direction la province du Bas-Ouélé. Au moins 60% d'élèves en âge scolaire ne pourront pas aller à l'école le 5 septembre, faute de place dans beaucoup d'établissements du cycle primaire dans le territoire d'Ango. Nous sommes à plus de 500 km au nord de Kisangani. La sonnette d'alarme est tirée par le député provincial Antoine Gambolipay, élu de Ango. Il s'y trouvait en vacances parlementaires. L'élu d'Ango demande au gouvernement de créer des classes parallèles afin de permettre à tous les enfants d'être scolarisés. Le point avec Jacques Moukou.
D'après cet élu du territoire d'Ango, dans différentes agglomérations à savoir Digba, Ezo, Dakwa et Banda, seulement 40% d'élèves sont inscrits. Les autres regagnent la maison en compagnie de leurs parents, faute de place dans les écoles. Antoine Gambolipay précise que ces dernières n'admettent que 55 élèves par classe.
On retient les 55 élèves par salle, mais les restes rentrent à la maison et ils se préparent déjà à faire une école missionnaire. C'est ce que nous demandons. Que l'État congolais construit d'autres salles de classe, soit créer les mêmes salles de classe, mais que ça soit cette fois-là à BVD.
Le directeur provincial de l'éducation n'admet pas ces révélations de l'élu d'Ango. Tout en reconnaissant la pléthore des classes partout ailleurs dans nos contrées, Bertin Solo déclare que les chefs d'établissement sont obligés d'inscrire tous les enfants à l'école.
Tous les enfants en âge scolaire doivent aller à l'école, respecter le nombre 55 élèves par salle de classe et abandonner les autres élèves qui viennent s'inscrire. On sera en contradiction. Et nous invitons le chef d'établissement à recevoir ses élèves se présentant pour l'inscription à l'école.
Afin de faire face à cet état des choses, le directeur provincial de l'éducation dans le Bas-Ouélé rappelle que tous les enseignants ont appris au cours de l'année dernière des méthodes pour gérer des classes pléthoriques. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Sud Kivu, préparatif de la rentrée scolaire 2022-2023, une assemblée générale a été organisée hier à Bukavu par le syndicat des enseignants du Congo SIECO. À l'issue de cette rencontre, les enseignants membres du SIECO se disent prêts à reprendre les cours le lundi 5 septembre. Néanmoins, ils restent préoccupés du fait de n'avoir pas encore perçu une prime promise par le gouvernement avant la rentrée scolaire. Par ailleurs, dans une communication faite il y a quelques jours, Geneviève Mizumbi, la ministre provinciale de l'EPST, a rassuré les uns et les autres sur l'effectivité de cette rentrée et que toutes les dispositions sont déjà prises pour sa réussite, dit-elle. Ainsi, les parents sont appelés à préparer leurs enfants en conséquence, a rappelé la ministre provinciale de l'EPST. Et dans la province du Tanganyika, la rentrée scolaire sera bel et bien effective ce lundi, assure le porte-parole de l'intersyndicale des enseignants dans cette province. Bruno Jibikilai l'a dit vendredi à Kalemie au sortir de l'Assemblée générale avec les responsables des syndicats des enseignants. Cependant, il dit que les enseignants restent très vigilants par rapport aux promesses du gouvernement pour le réajustement de leur salaire. On écoute Bruno Jibikilai dans cet extrait choisi par Paulin Munanga.
L'intersyndicale nationale qui regroupe tous les syndicats de l'EPST s'est réuni à Kinshasa et que le mot d'ordre de la reprise de la rentrée scolaire était effectif pour que tous les enseignants rentrent à l'école à partir de ce lundi 5. Et c'est dans ces pas que nous allons devoir marcher. Et ça ne veut pas dire que lorsque nous rentrons, nous avons arrêté de continuer à revendiquer les droits qui sont légitimes des enseignants de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faudrait savoir qu'au mois d'octobre de cette année, le gouvernement va procéder au réajustement des salaires de tous les enseignants à la hauteur de 30% sur le deuxième acompte du deuxième palier de Bibois. Il s'agit bien sûr d'un palier qui s'est relevé à 250 000. Et le gouvernement de la République va payer 30% de cette enveloppe au cours de la paye du mois d'octobre. Donc nous allons être très vigilants pour pouvoir suivre l'exécution de cette disposition le moment venu.
Et puis, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi est catégorique. Le lycée Lubusha, situé à Luisha, plus de 90 km de Lubumbashi, n'est ni à vendre ni à détruire, moins encore à délocaliser. Au sujet des négociations entamées avec les entreprises qui exploitent les minerais non loin du lycée pour sa délocalisation, Mgr Fulgence Muteba rassure que ses contacts n'ont jamais porté sur cette question. On écoute l'archevêque métropolitain de Lubumbashi qui vient d'effectuer une visite dans cette école. Il est au micro de Jean Gandou.
Nous avons eu quelques séances de négociation pour la réparation des brèches qui ont été ouvertes par une société qui se trouve en dehors de notre concession. Parmi les effets de l'exploitation minière sur notre bâtiment, il y a les fentes. Alors, on leur a demandé de pouvoir venir réparer. Ils ont accepté. C'est dans ce sens-là que j'ai autorisé une commission d'aller s'asseoir avec les gens de la mine sous la direction du gouvernorat pour justement qu'on puisse trouver une solution. Mais maintenant que j'ai senti la mauvaise foi de ces entreprises, prises minières, j'ai dit il n'est plus question de pouvoir négocier de cette manière. S'il faut parler de délocalisation, d'abord, les partenaires qui doivent être d'accord en dehors de l'archidiocèse, ce sont les élèves, les professeurs, les parents, les anciennes du lycée, ainsi que les autochtones. Par ailleurs, il y a des règles qu'il faut suivre, c'est-à-dire construire un tel lycée exactement avec la même architecture, le même nombre de bâtiments, sans oublier bien sûr les villas qui sont occupées par les professeurs. Et dans un site qui va plaire à tous les partenaires. C'est quand même une entreprise titanesque.
Rendons-nous dans la province de Sankuru. Les habitants de Lubefu peuvent désormais traverser le pont Luandanda, jeté sur la rivière du même nom. Cela grâce à l'intervention financière du promoteur de la coopérative pour le développement de Lubefu, Codel. C'est depuis plus d'une année que ce pont était devenu un danger public suite aux trous créés par la dégradation de quelques planches. À la veille de la rentrée scolaire, la situation devenait très compliquée pour des milliers d'élèves qui devraient traverser chaque jour la rivière Luandanda pour s'y rendre à l'école. Et comme conséquence, certains paysans avaient suspendu les travaux champêtres, craignant de tomber dans la rivière. Esther Ndalafina, reportage.
C'est un ouf de soulagement pour les habitants de Lubefu. Les ponts jetés sur la rivière Luandanda qui sépare le centre commercial du territoire de Lubefu et le quartier administratif où se trouve le marché central, la maison communale, les maisons du personnel administratif ainsi que les groupements de Biari a été remis en état par la coopérative pour le développement de Lubefu Codel en sigle. D'après certains habitants, cette organisation a acheté deux planches pour remplacer celles défectueuses et a aussi payé la main d'œuvre pour faciliter le passage.
Nous sommes très contents pour les gestes-là. Ce geste sera inoubliable de génération en génération. Le pont de Luandanda faisait beaucoup de dégâts aujourd'hui, qui nous a épargné de ces dégâts.
Les travaux de réhabilitation de ces ponts ont duré 3 mois. D'après le promoteur de Codel, Hippolyte Ndjadi prévoit étendre d'autres activités caritatives dans d'autres coins du territoire de Lubefu.
L'appel des cœurs nous a été lancé par les autorités locales de Lubefu, ainsi que par l'association des parents et élèves du Congo. Et voilà pourquoi nous avons aussi répondu positivement à cette demande en mettant à la disposition l'ONG des Codel une somme de 10 000 dollars pour la réhabilitation de ce pont.
Signalons que plus de 5 000 riverains traversent régulièrement ce pont pour se rendre au centre de Lubefu. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
244 millions d'enfants ne sont pas scolarisés dans le monde contre 400 millions en 2000. Ceci ressort des données publiées par l'UNESCO cette semaine. Même si ce chiffre est en baisse depuis plus de 20 ans, la situation demeure préoccupante, a fait savoir l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO. L'ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev sera enterré ce samedi à Moscou, la capitale de la Russie. Ce, au terme d'une cérémonie ouverte au public. Le président Vladimir Poutine n'assiste pas aux obsèques en raison d'un emploi du temps chargé. Grande figure politique du XXe siècle, Gorbatchev s'est éteint mardi soir à l'âge de 91 ans, des suites d'une longue et grave maladie selon l'hôpital où il était soigné. Il a marqué l'histoire en précipitant malgré lui la disparition de l'Empire soviétique en 1991 alors qu'il est essayer de le sauver avec des réformes démocratiques et économiques, mettant ainsi fin à la guerre froide.
L'invité.
Il nous vient de la province de la Tchopo. Le comité provincial de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo unique a clôturé en début de week-end dernier à Kisangani une assemblée générale de cette corporation 3 ans après son installation. Le secrétaire général de cette organisation au niveau national a pris part à ses assises. Quelle évaluation faire des activités de cette structure syndicale dans la Tchopo et quelles perspectives? Réponse avec notre invité Jean-Marie Moussambaï, secrétaire exécutif provincial de l'UNIC Tchopo. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Jean-Marie Moussambaï, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
L'Assemblée générale vient de se clôturer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises?
Merci pour la question. C'est le congrès de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, les syndicats des infirmiers, syndicats professionnels. Ce qu'on peut retenir, c'est la façon dont les camarades infirmiers ont appris des nouveautés par rapport au syndicat et par rapport à la profession, comme dans le cadre d'échanges d'expérience.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'ils ont appris?
Le cadre des nouveautés, c'est par rapport... On les a d'abord parlé sur comment est né le syndicalisme. Et on les a aussi parlé comment on doit revendiquer en cas de problème et quelles sont les procédures qu'on doit respecter pour arriver à une décision, par exemple, comme la grève. Et on les a aussi parlé comment un infirmier peut aussi poser son diagnostic. Le médecin peut poser un diagnostic médical, mais l'infirmier aussi doit poser un diagnostic infirmier. C'est ça l'avantage de venir et assister au congrès.
Alors, quels sont les objectifs que vous poursuiviez en organisant cette assemblée?
L'objectif était d'évaluer d'abord. Il faut qu'on évalue les activités des comités provinciaux de l'UNIC depuis 3 ans qu'on est à la tête de cette...
Après cette évaluation, qu'est-ce qui en ressort?
Après l'évaluation, on a remarqué qu'en tout cas, nous sommes en train d'aller dans un bon sens. Parce que on a assisté 2 fois au congrès national à Kinshasa et on a fait une grève de 6 mois ici. On a montré que quand même nous sommes dans les droits de réclamer la prime et les salaires par rapport à ce que nous sommes en train de prêter comme...
En tant que mouvement syndical, est-ce que l'ANIC province de la Tchopo a déjà réussi à obtenir la mécanisation quand même de ne fût-ce que de la moitié ou un peu plus de la moitié de ses membres?
L'ANIC, pour dire la moitié, c'est trop parce qu'il y a beaucoup, 609 000 infirmiers dans les pays, 71 000 qui n'ont pas la prime ni salaire. 71. Mais même si on ajoutait, ce qu'on se réjouit, c'est parce que on commence quand même à aligner les gens. Il y a les gens qui trouvent les salaires, il y a les gens qui trouvent la prime, mais le nombre est insuffisant par rapport à ceux qui ne touchent pas. Imaginez-vous, il y a une maman qui a été engagée depuis 1964. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas les salaires.
Comment peut-on expliquer cela?
Je ne sais pas si c'est quoi. C'est la fonction publique qui peut expliquer ça. Parce qu'on engage quelqu'un, on ne lui donne pas les salaires. Bon, moi, je vais expliquer comment. Je ne fais que réclamer pour qu'on lui donne et on donne aux autres leur salaire ou bien leur prime.
Il y a longtemps que vous menez la campagne pour l'inscription au tableau de l'ordre de tous les infirmiers et le processus continue, mais il s'avère que c'est un peu difficile pour obtenir ce numéro d'ordre. Il y a beaucoup d'infirmiers qui se sont fait inscrire mais qui n'ont pas encore eu de numéro.
Oui, pour répondre à cette question, il fallait aller voir celui qui est le représentant de l'ordre national. Moi, je suis le représentant du syndicat unique. Moi, pour moi, c'est la revendication, c'est l'ordre qui connaît la régularisation et c'est lui de donner la bonne réponse par rapport à ça.
Que pouvez-vous dire à ces candidats, aux prétendants membres de l'ordre qui ont déjà déposé leur dossier chez vous? Est-ce que ces dossiers ont déjà été transmis à Kinshasa? Continuez à attendre l'augmentation peut-être de l'effectif avant de transmettre ces dossiers à qui des droits?
On ne dira qu'aux amis, confrères et consoeurs qui ont déjà déposé leurs dossiers à qui des droits, d'attendre leurs cartes et à ceux qui n'ont pas encore fait ça, d'aller parce que nul ne peut exercer la profession infirmière s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre. Ces gens-là qui ne sont pas inscrits, on va leur demander de cesser à travailler et d'arranger d'abord les dossiers. Donc on ne fait que les encourager de pouvoir attendre leurs cartes qui vont venir parce qu'il avait un problème technique par rapport à l'impression des cartes.
Alors quelles sont les perspectives d'avenir?
Et les perspectives à venir ici, on compte, comme on a dans les résolutions, il faut que les conseils provinciaux, donc les secrétariats provinciaux de l'UNIC aient un siège. Et pour arriver à avoir un siège, il faut que les membres cotisent. Et d'ailleurs, l'Assemblée a accepté qu'on puisse souscrire et avec 0,5 ou bien 1 dollar à donner au comité provincial pour un jour qu'on ait un siège et avoir même les moyens de placement, même la façon dont on doit fonctionner.
Cette souscription doit être volontaire ou obligatoire?
La souscription est volontaire et a un caractère obligatoire aussi. Parce que toute cotisation pour un syndicat, ça doit être obligatoire parce que avant de vous donner une carte, vous aviez signé une note d'adhésion. En bas, là, on a dit, je suis capable d'aider mon syndicat avec 2000 francs pour son fonctionnement et on a signé, on s'est engagé, c'est déjà une obligation.
Un mot pour les corps infirmiers de la province de la Tchopo.
On les demande de continuer à bien travailler et de continuer à réclamer et à revendiquer en cas de besoin. Qu'ils aillent nombrés, s'inscrire au tableau de l'ordre et qu'ils viennent aussi adhérer au syndicat qui est là pour revendiquer leurs droits.
Merci beaucoup Jean-Marie Moussambaye.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Le secrétaire exécutif provincial de l'Union nationale des infirmières et infirmiers du Congo, section Tchopo, répondait aux questions de Jacques Moukonkole. C'est la fin de ce journal coordonné par Noéla Luzitu Kabambi. À la mise en onde, Jean-Noël Mokondo et Belinda Bosuma vous l'a présenté. Merci de nous avoir suivis.